Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense? Shocking 20. Sexualité, un monde de croyances. Le but de ce podcast est d'offrir à chacun et chacune des outils pour développer sa capacité d'auto-analyse vis-à-vis de ses propres pensées et décisions. Je vous ai souvent parlé des méthodes scientifiques, des biais cognitifs, des études randomisées en double aveugle. Mais face à nos propres convictions, à notre vécu personnel, quand on touche à des sujets de sciences humaines, être sceptique, appliquer la pensée critique à soi-même, c'est d'abord et avant tout entendre la parole de l'autre, s'ouvrir aux récits d'expériences qui ne vont pas forcément dans le sens de ce que l'on aimerait entendre ou penser. Et dans le domaine de la sexualité, des relations hommes-femmes, ce n'est pas toujours simple. Comme nous l'explique Marianne Niozzi dans le dernier volet de cette série, faire preuve de scepticisme, c'est aussi se placer en position collaborative, en minorité, à l'écoute de ce que l'autre a à nous dire. Et ça passe par le fait, figurez-vous, de questionner les résultats scientifiques et de les mettre en perspective avec l'expérience vécue. Si ce que je vous dis là vous semble incohérent avec une démarche sceptique digne de ce nom, la fin de cette émission, je l'espère, vous éclairera et nourrira votre réflexion. Sur vous-même, bien sûr. Chapitre 5. Sexe, biais et politique.
Une autre chose que les gens ne savent pas, c'est qu'en fait, énormément de personnes ont été victimes de violences sexuelles ou de violences conjugales dans leur entourage. Et je pense que c'est quelque chose dont on se rend compte quand on travaille en milieu féministe. Parce qu'à partir du moment où on travaille en milieu féministe, on ruine soirée sur soirée avec les révélations de nos voisins de table sur ce qu'ils ont vécu. Parce que le fait qu'il soit évident que j'étais prête à l'entendre et que j'étais au courant du mécanisme et que j'étais dans aucune forme de déni sur la question faisait que dans un dîner, une amie a dit à toute la tablée qu'elle n'enverrait jamais ses enfants en colo parce qu'elle avait été victime d'agression par un moniteur. Il y a vraiment eu un moment où je trouvais ça compliqué. Je veux dire, je prenais un taxi, la femme taxiste me parlait de sa meilleure amie qui était sous emprise d'un type horrible. C'est vraiment très répandu. Je pense qu'il y a quelque chose de très beau qui s'est passé ces dernières années dans le mouvement féministe et en grande partie grâce au mouvement Nous Toutes, je pense qu'il faut le dire, qui a beaucoup informé, qui a mis en place des formations à grande échelle pour que les personnes sachent comment ça se passe, avec qui ça se passe, la plupart du temps avec une personne qu'on connaît, vraiment loin du stéréotype du violeur dans un coin sombre.
Et oui. 90%, c'est ça, des personnes qui agressent sexuellement sont des personnes connues de la personne victime.
Ouais. Et donc, à partir de là, les choses sortent. Alors j'entends que ça ne soit pas toujours facile, qu'on n'a pas toujours envie d'ouvrir les yeux là-dessus, mais à partir du moment où on est à l'écoute, on est une partie de la solution. Et il y a encore plus de personnes qui se forment. Nous, on a beaucoup de demandes de bénévolat chez nous parce que les personnes ont envie d'aider et d'apporter de l'information, etc. Donc, les violences sexuelles, les violences sexistes sont tabous et encore plus celles qui visent les enfants. Or, ce sont la majorité des violences sexuelles. Elles visent les enfants. Pour la plupart, pour deux tiers des hommes qui seront victimes de violences sexuelles à un moment dans leur vie, c'est dans leur enfance. Pour 60% des femmes, c'était mineur au moment des faits. Donc voilà, ça je pense que c'est quelque chose que les gens doivent savoir parce que parce qu'à partir du moment où on le sait, à partir du moment où on le donne à entendre aux gens autour de nous, on devient partie de la solution et que on se sort un peu plus du déni.
Et c'est tentant, et sur ce sujet-là, le silence est souvent la solution proposée, alors c'en est absolument pas une.
Tout à fait. Ouais. Et la chose vraiment sur laquelle je pense m'être répétée à toutes les sauces possibles et imaginables dans mes animations et dans mes formations et toutes les fois où j'ai eu l'opportunité et la chance de parler avec des personnes de leur sexualité, de leur vie relationnelle, de leur vie sentimentale, c'est que on n'est pas censé souffrir. On n'est pas censé souffrir d'une relation amoureuse. On n'est pas censé souffrir d'une relation sexuelle. Toute cette espèce de romantisation de la jalousie, de la possessivité, c'est parce qu'il m'aime que, etc. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et je pense qu'à partir du moment où on s'en rend compte, on peut réellement se dire que une relation affective, une relation sexuelle, ça peut être un jeu, ça peut être une rigolade, ça peut être plein de communication et d'échanges.
Et de découvertes.
Et de découvertes. Et je pense qu'il y a plein de choses qui jouent dedans, mais cette idée qu'on ne pourrait pas parler, cette idée que la demande de consentement ruinerait quelque chose dans la spontanéité du rapport amoureux, cette espèce de romantisation des corps qui se parlent sans qu'on ait besoin de mots.
Si tu me demandes, c'est parce que tu ne me comprends pas.
C'est ça, exactement.
Si je dois te dire, c'est que tu ne me comprends pas.
Et puis si je te demande, tu vas trouver ça ridicule. Et puis on va finir par signer des contrats. Et puis non, en fait, on va juste s'assurer que tout le monde va bien. Et qu'on a envie de continuer, et peut-être qu'on aura envie de faire une pause et puis de reprendre plus tard, et peut-être qu'on se rendra compte qu'on est aussi bien de rester potes parce qu'en fait on s'entend très bien par ailleurs, mais que ce qu'on aime n'est pas compatible et c'est pas grave. Et de la même façon, on a été amené ces dernières années à questionner les types de relations dans lesquelles les personnes ont envie d'être, hein, parce que alors un des grands stéréotypes, c'est que les femmes ont besoin d'être amoureuses pour avoir des rapports sexuels. Est-ce qu'on est obligé d'être amoureuse pour avoir un rapport sexuel? Un des grands stéréotypes, c'est que les hommes, ils sauteraient sur tout ce qui bouge. Et si, en fait, les hommes, ils étaient parfaitement heureux avec une personne à qui ils auraient confié ce qu'ils avaient à confier, avec qui ils seraient en confiance? Est-ce qu'on est obligé d'avoir un partenaire toute notre vie? Est-ce qu'on est obligé à la fidélité, entre guillemets, si on met le terme de fidélité à la source uniquement d'une sexualité non partagée, unique, etc.? Peut-être pas. En fait, à partir du moment où on envisage la chose comme empreinte de communication, de jeu, de plaisir, on ouvre beaucoup de possibilités. J'ai parlé tout à l'heure du fait que les rapports ne doivent pas faire mal. Ça semble absurde, hein, de le dire, mais c'est encore quelque chose qui est vraiment une crainte pour beaucoup de femmes. Beaucoup de personnes ont peur d'avoir mal. Ça ne devrait même pas figurer dans le registre, hein, dans le spectre des possibilités, et pourtant ça y est. Donc, cette espèce de révolution par le plaisir, y compris par le plaisir de dire « moi, j'ai pas envie, je préfère qu'on papote ou je préfère rester seule et tricoter, enfin, pourquoi pas, quoi ?»
En fait, je crois qu'il y a juste l'idée que tout le monde doit réagir de la même manière et que les femmes sont comme ça et les hommes sont comme ça, mais on parlait tout à l'heure du plaisir féminin et des différences entre les rapports hétéros et les rapports homo, mais le plaisir d'une femme va être différent du plaisir d'une autre femme. Il va se trouver dans d'autres pratiques. De même que chez un homme, il va y avoir une envie, un désir de certaines choses, pour un autre, une autre envie, un autre désir. Et en fait, s'imposer à soi-même cette dictature d'une posture qui serait la même pour toutes les femmes et une posture qui serait la même pour tous les hommes, c'est un malheur assuré pour tout le monde, en fait. Et dont les femmes sont victimes plus que les hommes, parce que, bah, quelque part, les hommes imposent leur propre volonté, historiquement, sur les femmes. Et c'est un peu ça, la grande idée méconnue, finalement, si on doit résumer, c'est que si on ne se pose pas des questions sur notre nature, si on ne fait pas un minimum de métacognition, de réflexion sur la manière dont on pense, mais on n'applique que des idées reçues et on s'impose d'entrer dans une boîte qui ne va pas nous convenir, tout simplement, parce qu'on est tous différents.
Oui, et puis pour rajouter un élément d'aventure, parce que moi je suis un peu une aventurière, il y a cette idée-là qu'une fois qu'on embarque dans cette idée-là de questionner ce qu'on désire, est-ce que je désire vraiment ça ou est-ce que je pense que je désire ça, ce qu'on veut, etc., on découvre que finalement on évolue tout au long de notre vie, que des choses qu'on pensait émancipatrices quand on avait 16 ans, finalement on se rend compte à 40 ans que... Bon, c'est peut-être pas l'émancipation totale. Peut-être que finalement, il y a d'autres choses qui m'intéressent. Peut-être que finalement, mon corps, là, il me plaît maintenant comme il est, alors qu'à une certaine époque, j'en ai pas. Ou au contraire, ben, j'ai envie qu'il change. J'ai envie de changer de posture par rapport à toutes ces normes de genre qui nous sont vraiment imposées d'une façon tellement rigide. Et c'est en train de voler en éclats. Et puis, une des choses que je trouve très drôle, c'est de voir l'effet de cette espèce de libération des normes de genre chez les plus jeunes sur des personnes plus âgées, les personnes de ma génération qui se disent « mais ça alors ? Et si moi je m'étais autorisée, et si je m'autorisais maintenant à explorer ne serait-ce que toute la palette de ce que moi j'ai envie de faire au-delà de ce qui m'est imposé jusqu'à un certain point, etc. » Et ça embarque dans un truc qui va nécessairement évoluer, sur lequel je pense aussi qu'il faut pas trop s'en vouloir, ne pas se libérer voilà, dans tous les sens. Enfin, il n'y a
rien à s'imposer non plus.
Il y a des contraintes dans ce monde, Des contraintes qui peuvent être, selon le moment, selon la situation sociale qu'on a, selon nos opportunités, plus ou moins fortes. Mmh. Et on fait ce qu'on peut.
Et
si c'est pas maintenant, ça sera peut-être plus tard. Si c'est pas plus tard, ça sera peut-être un petit peu après. Et c'est pas grave, mais de savoir au moins qu'il existe dans cette société un réseau de personnes, et là je parle largement du réseau féministe, du réseau militant, de façon plus restreinte, du planning familial, un réseau de personnes qui sont là pour ça justement. Ben, moi en fait je fais ça, mais je suis pas sûre que ça me va, j'ai envie de faire autre chose, est-ce que vous pouvez m'accompagner? Est-ce que je peux juste vous poser mon truc et puis plus jamais vous revoir? C'est aussi tout à fait une possibilité, mais que ça existe. Enfin, on peut pas le faire toute seule et tout seul en fait, ce travail-là. On le fait à plusieurs, on le fait en écoutant ton émission, on le fait en lisant des bons bouquins, on le fait en parlant avec des personnes qui ne partagent pas nécessairement notre avis, mais qui nous écoutent gentiment. Et c'est aussi ça la joie du militantisme, c'est de te joindre à plein de personnes qui tâtonnent aussi comme toi, mais qui pensent qu'il y a mieux, enfin qu'il y a peut-être autre chose à faire, etc.
Oui, et puis il y a une autre idée aussi qu'on découvre peut-être avec le temps, c'est qu'on évolue soi, c'est-à-dire qu'on est tous et toutes différents, mais on évolue soi, c'est-à-dire je suis différente, moi, de la personne que j'étais il y a 20 ans. Donc, je vais avoir des envies, des désirs, des plaisirs qui vont être différents. Et ça, c'est aussi super intéressant et super libérateur de s'en rendre compte. Et sans doute que le planning familial aide aussi à ça, dans ses conversations groupes, dans ses entrevues, à tout à coup se rendre compte, tiens, je ne me suis pas re-questionnée sur ça. Je m'étais déterminée sur cette question à l'âge de 18 ans et j'avais décidé que c'était comme ça. Peut-être qu'aujourd'hui, ça ne me convient plus. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai envie de voir ou de vivre les choses différemment. Et dans tout ça, bah, vous aussi, en tant qu'accompagnant, éducateur, vous avez des biais. Comment vous gérez ça déjà? Est-ce que vous avez à cœur de les identifier ou est-ce que c'est un peu une zone d'ombre dans votre activité?
Non, je pense que justement, le planning s'identifie comme une organisation féministe et d'éducation populaire. Donc la démarche d'éducation populaire, elle part du postulat qu'on ne sait pas tout et que globalement, les personnes en savent souvent plus sur elles-mêmes et sur leurs besoins et sur leur vie que nous, animatrices. Et part de l'idée que la connaissance, elle est distribuée. Donc ça, ça aide beaucoup, déjà, à combattre la possibilité des biais, puisque comme on n'est pas dans une posture descendante, je sais et tu ne sais pas, l'espoir qu'on a, c'est que cette posture-là, quand elle est bien travaillée, permet aux personnes de nous dire, ben voilà, en fait, là, tu comprends pas.
Ouais.
Mon expérience, c'est pas celle-là. Plus précisément, mon expérience, c'est celle-ci. Avoir une attitude bienveillante et non jugeante, ça aide aussi beaucoup, évidemment.
Et donc, quels sont les biais que tu peux noter, toi, dans ton expérience, peut-être, déjà, en partant de toi?
Les angles morts, déjà, partons de l'idée qu'on en a toutes et tous, et qu'on ne sait pas tout. Il y a une diversité d'intervenantes et d'intervenants au planning qui est assez phénoménale. Donc, je prétendrais pas savoir quels sont les angles morts des unes et des autres. Mais ce qu'on peut déjà dire, c'est que, par exemple, une intervenante qui a une longue expérience au sein du planning, qui a connu l'époque où, en fait, on travaillait dans l'illégalité sur certains aspects, etc.
Les années 60,
voilà. Elle n'a pas nécessairement la même culture militante, la même expérience. Certaines choses vont être fortement imprimées en elle. Je pense, par exemple, au rapport que certaines femmes peuvent avoir avec la pilule, parce que quand la pilule est apparue, c'était une vraie révolution. Et donc, ça peut être compliqué de questionner la pilule pour ces femmes-là. Mais plein d'autres choses. Là, je parle de la question de l'âge et des expériences, mais ça peut être des expériences culturelles. Moi, je suis québécoise, par exemple, mais j'imagine avec pas mal de facilité qu'une personne qui vient du sud de la France, une personne qui viendrait de Corse, une personne qui viendrait de Bretagne, en fait, n'aurait peut-être pas baigné exactement dans le même bain culturel. Il y a la question des classes sociales. Quand j'ai été animatrice, quand j'ai parlé avec du public, ben, j'étais déjà face à une grande diversité de public. Et puis, moi, je venais avec mon expérience, qui était celle d'une fille de la classe moyenne aisée, avec des parents enseignants. Je suis plutôt d'une classe favorisée. Et donc, par exemple, la première fois que j'ai rencontré quelqu'un qui avait de la difficulté à se payer un produit de première nécessité, j'ai dû intégrer que ça existait, et même si en théorie on peut se le dire, etc. C'est ça aussi qui est très intéressant, c'est que je pense qu'on peut avoir toutes sortes d'idées en théorie et tenter de déconstruire, ce qui est un terme très à la mode chez les militantes, de déconstruire ses a priori, ses préjugés, etc. Dans l'interaction immédiate, ces préjugés.
Il y a un moment de latence.
Voilà. Ouais. Et parfois, en fait, ça ressort sans même qu'on s'en rende compte. D'ailleurs, il y a un très beau boulot qui est fait par une chercheuse de Harvard qui travaille sur les biais implicites. Et comme elle présente des images en séquence très, très rapide et demandant des réponses très, très rapides, eh bien, elle va faire émerger des biais qu'on a, que dans notre discours, si on prend le temps de réfléchir un peu, on ne serait jamais de cette opinion-là. Ben, c'est un peu ce qui se passe aussi quand on intervient avec des personnes sur le coup.
Oui.
Nous viennent des réactions qui sont effectivement biaisées, qui peuvent complètement occulter certaines expériences.
Oui, c'est sûr que comme tu le dis, la classe sociale, l'expérience personnelle nous amène à avoir des jugements qui sont donc imprimés en nous, parce qu'on a de bonnes raisons quelque part d'y croire, ça correspond à notre vécu. Et puis c'est difficile de, ne serait-ce que d'identifier qu'il s'agit de biais, quelque chose qui nous semble naturel entre guillemets, mais qui ne l'est pas forcément pour tout le monde.
Voilà,
c'est
et ça c'est un travail qui est super intéressant, et puisque tu me posais la question des angles morts, de l'accompagnement, ben nous on travaille de mille et une façons pour essayer d'abattre ces angles morts,
ouais.
De donner plus d'opportunités aux personnes qui viennent nous voir, et on travaille en collaboration. L'éducation populaire, déjà, c'est une forme de collaboration, puisqu'on se dit, ben, on va construire ensemble la connaissance et l'échange dont vous avez besoin aujourd'hui. Mais aussi, on travaille avec des associations spécialisées, par exemple, sur les questions LGBTQI. On a eu vraiment la chance de travailler avec des personnes qui s'y connaissent parfaitement, qui sont parfois concernées elles-mêmes, etc., et qui nous ont amené d'autres regards sur l'expérience de la migration, par exemple. Ça, c'est quelque chose que je pense que c'est très compliqué à comprendre quand on ne l'a pas vécu. Les parcours de migration pour les personnes sont extrêmement violents, amènent des réalités quasi universelles pour les femmes qui migrent sur des parcours compliqués, de violences sexuelles par exemple, et on peut ne pas l'avoir à l'esprit, c'est normal de ne pas s'imaginer que ça soit si terrible que ça. Mais une fois qu'on a été formé, une fois qu'on a entendu les femmes, une fois qu'on en a discuté entre nous, ben, alors on s'ouvre. Et puis il y a aussi tout un pan du travail du planning qui est la collaboration avec les chercheuses et les chercheurs, donc soit parce qu'elles viennent nous raconter des choses, elles viennent nous former, soit parce qu'on les invite à des événements précis, soit aussi parce qu'on va collaborer sur des recherches qui vont nous permettre d'avoir une forme d'objectivation de la réalité des personnes, ou encore de poser des questions dans le cadre de ces recherches qui ne nous viendraient peut-être pas à l'esprit. Voilà, c'est un processus continu et qui ne s'arrête pas, puisque les nouvelles générations ont des nouvelles préoccupations, des nouvelles choses à nous dire, voilà. Et donc, ça fait partie, je crois, pour beaucoup d'entre nous au planning, de ce qui fait qu'on aime faire ce travail, c'est qu'il y a peu de certitudes.
Oui, sans doute qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect déjà factuel de comprendre la réalité de l'autre dans ce qu'elle a vécu, mais aussi sans doute la connaissance de sa culture. Et dans le cas des migrants, ça doit être très compliqué d'imaginer comment la personne envisage son propre parcours, son propre vécu. Et j'imagine que dans certains cas, on va avoir tendance à accentuer par notre propre prisme français, par exemple, quelque chose qui, pour la personne en face, va avoir moins d'importance ou au contraire, occulter une chose qui, pour elle, est très importante. Donc, vous qui êtes dans l'échange, je comprends l'intérêt de rencontrer notamment des chercheurs et notamment, par exemple, pour l'ethno-psychiatrie ou l'ethno-psychologie ou des sociologues qui vont pouvoir vous éclairer sur certains points aveugles, effectivement.
Oui, puis je pense qu'il y a une approche qui est très intéressante, c'est de se placer en minorité en tant qu'animatrice.
Oui.
C'est-à-dire qu'au planning, on a une longue tradition d'accueil en collectif. Et ce collectif, il permet aux paroles d'être entendues par plein de personnes différentes. Alors, si vous vous reformulez en disant « alors ce que j'entends, c'est ci ou ça », et que la personne, elle n'a pas l'air d'être tout à fait d'accord avec ce que vous avez reformulé, ben, peut-être que quelqu'un d'autre dans le groupe va avoir entendu ce qui s'est dit et va dire « ah non, non, je crois que c'est plutôt ça qui s'est dit ». Et parfois, on reprend du coup en marche un train parce que les personnes qu'on a autour de nous auront compris elles. Et ça, ça peut être super utile. Ce qui est aussi super utile, c'est de se mettre en collaboration. Donc, comme je disais, avec d'autres organisations qui travaillent plus précisément avec d'autres publics et donc qui vont nous dire « ah non, non, mais là, en fait, il y a un truc que tu n'as pas compris.
Ouais. » Et une autre chose qui doit être vraiment très présente, ou en tout cas quelque chose sur lequel il faut peut-être porter son attention, c'est le fait que vous êtes toutes et tous des militants, hein, clairement, dans un engagement pareil. Donc, il y a un risque de dogmatisme, peut-être une idéologie qui sous-tend et qui va peut-être vouloir justifier certaines choses sans forcément avoir de preuves, par exemple scientifiques, que c'est la bonne voie, ou avoir la certitude que c'est quelque chose qui va réellement servir la cause, juste parce qu'on y croit.
Ben, c'est sûr que dans le féminisme, moi j'aime bien les sciences et ça m'intéresse beaucoup et j'ai des débats éternels avec plein de copines et de copains qui sont scientifiques sur la fameuse question de la nature et de la culture. Mmh. Le féminisme a permis, je crois, et les chercheuses et chercheurs féministes, mais essentiellement les chercheuses féministes, ont permis de mettre en exergue le fait qu'une grande partie de l'expérience des femmes était acquise. Comme le disait Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Et qu'une grande partie de l'expérience qu'on a de la masculinité, de la féminité, sont des choses qui sont des croyances qu'on nous répète depuis qu'on est très jeune. Pour autant, on peut garder en fond d'esprit qu'on sait aussi que plein de choses sont génétiques dans la vie et que c'est possible. Alors, là-dessus, par exemple, je vais te dire que c'est compliqué pour moi d'entendre des personnes dire « Oui, mais la nature, dans la nature, les animaux se comportent comme si, et en fait, si c'est comme ça dans toutes les cultures du monde, alors c'est bien que c'est naturel, etc. » Ça, c'est quelque chose qu'on vit dans le féminisme régulièrement. Comment garder cette possibilité-là ouverte, qu'il y ait des choses qui soient naturelles, si on veut garder l'esprit interrogateur et ne pas tomber dans des certitudes absolues, il faut garder cette question-là ouverte, tout en soulignant qu'il y a un fort biais de naturalisation des différences dans la société et que le discours antiféministe se nourrit de ce biais et le renforce à coups d'études qui ne sont pas toujours très sérieuses, tout en n'assénant pas des choses qui sont éventuellement pas plus vraies de l'autre côté, en gardant cette question, la question ouverte.
Oui, alors sur ce sujet, précisément, je ne peux que conseiller l'émission que j'ai faite avec Odile Fillot, sociologue des sciences. On parle ensemble dans cette émission des différences psychologiques entre les hommes et les femmes qui auraient des origines biologiques. Et justement, avec elle, on explore les différentes études qui ont été faites à ce sujet et on essaie de voir ce qui est avéré ou pas, ce qui reste en question, ce sur quoi on n'a pas forcément de réponse. Et c'est évidemment très compliqué pour tout le monde, mais aussi quand on est militant en particulier, de rester sur quelque chose sur lequel on ne sait pas, on ne peut pas se prononcer. C'est toujours très compliqué parce qu'on veut servir une cause et puis on veut voilà, faire avancer les choses.
Et puis qu'on a constaté que plein de choses étaient fausses en
par
fait.
Par soi-même.
Donc, moi, je sais que personnellement, j'ai eu une éducation à la théorie de l'évolution, par exemple, qui fascinait mon père. On en parlait beaucoup, etc. Mais quand on regarde les premiers écrits évolutionnistes, ils étaient marqués par un très fort biais naturalisant des différences et qui a continué. Il y a une paléoanthropologue qui questionnait l'espèce de passivité qu'on colle aux femmes dans l'évolution, dans leur stratégie de reproduction. Donc, elles attendraient que les mâles aient fini de se battre pour ensuite procréer, etc. Et elle a commencé ce travail de façon très courageuse il y a plusieurs décennies. Et à l'époque, on lui a prédit une carrière très courte. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Et elle a montré dans ses travaux, de façon super intéressante, les stratégies des femelles dans certaines espèces, et puis ça peut induire des nouveaux questionnements quant à la paléoanthropologie. Et aujourd'hui, on voit une explosion de nouvelles questions et de nouvelles réponses sur, effectivement, la division du travail chez les premiers humains, etc., qui viennent complètement dynamiter ce qu'on pensait être la vérité, y compris, je crois, chez certaines féministes qui ont pu affirmer des choses sur les premiers temps de l'humanité. Et moi, je trouve ça super fascinant. Je trouve qu'on n'a pas à avoir peur de ça. Par contre, on a à avoir une forme d'exigence avec la science qui peut être une exigence féministe.
Oui, c'est assez amusant, entre guillemets, d'observer l'évolution depuis le début du XXe siècle de la vision que les gens ont du rôle de la femme à la préhistoire qui a évolué en fonction justement des progrès sociaux actuels. Donc, dans les années 50, on voyait les femmes de la préhistoire telle qu'on voyait les femmes des années 50. Dans les années 70, avec les hippies, on les a vues encore autrement. Et ça a évolué comme ça. Donc, c'est là qu'on se dit, il y a vraiment du boulot, quoi, en termes de recherche. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur le recul qu'il faut avoir et le sérieux, quelque part, qu'il faut avoir quand on appréhende la science. Parce que l'autre penchant qu'on pourrait avoir quand on est militant, c'est être scientiste. Donc, à dire, la science a dit, donc, telle étude a dit que, donc. Et j'applique ça à la lettre dans ma pratique, où je le revendique.
Ben, questionner la science, c'est essentiel. Et cette question-là du scientisme et du questionnement de la science et de l'avancée de la science, je le vois beaucoup dans les rapports qu'un mouvement comme le planning, mais que d'autres organisations féministes ou qui ont à cœur certaines thématiques qui concernent majoritairement des femmes peuvent avoir avec les institutions médicales, avec les institutions qui régissent le soin. Mmh. Et donc, on peut avoir effectivement une forme d'immobilisme autour des questions scientifiques, c'est-à-dire que la science change et puis ça ne change pas à la bonne vitesse. Mais en fait, ce qu'on peut se rendre compte, c'est que quand il y a des études qui sont faites, qui changent la doxa, enfin, ça prend un certain temps avant d'être intégré. Parfois, quand c'est des études qui montrent des choses qui vont vraiment être, à notre sens, favorables à l'accès des femmes, à la santé, etc., on a envie que ça aille plus vite.
Dans l'application, sur le terrain.
Dans l'application, bien sûr. Et puis, il y a aussi, qu'est-ce que c'est que la science, en fait? C'est les sciences sociales, c'est les sciences biomédicales. Il y a plein de différentes sciences. Et je pense que dans le scientisme auquel nous, on peut faire face parfois au planning, c'est de réduire la science aux sciences biomédicales et de ne pas voir en fait tout l'intérêt qu'il peut y avoir à avoir d'autres éclairages. Je pense notamment à l'anthropologie, à tout ce qui va chercher dans la sociologie à comprendre l'expérience vécue et donc l'importance que ça peut prendre.
Et donc, dans certains cas, ça veut dire que même si on découvre quelque chose en termes médicaux, par exemple, qui irait plutôt dans le bon sens pour aider les femmes, les soutenir, etc., ou même les soigner, quelquefois, tu veux dire que les sciences sociales peuvent venir pondérer ça en disant « oui, mais ce traitement, par exemple, va être trop lourd ou l'application est trop complexe, n'est pas adaptée au réel dans telle société, dans la nôtre ou dans d'autres pays ». Il faut prendre en compte une connaissance plus large, finalement, que le simple fait de découvrir un médicament ou...
Ouais. Ça, c'est une question qui me paraît vraiment importante. C'est que le soin, la santé dans son sens large, hein, du bien-être global des personnes, ne peut pas avancer qu'en posant les postulats biomédicaux. Un traitement peut être super, mais s'il est insupportable, difficile à tenir, etc., pour les personnes, s'il est trop cher, il ne servira pas le bien commun. Donc, ça, c'est une question qui est super importante. Bon, nous, on n'est clairement pas une association de scientifiques, mais en tant qu'association militante, on prétend remettre du poids dans l'expérience vécue des personnes. Donc, redire que certaines choses peuvent sembler anecdotiques sur un plan biomédical, c'est pas si grave, mais dans la vie des personnes, ça aura des conséquences qui seront très graves. Quand on parle de l'avortement et de la question des délais, par exemple. Quand on dit que c'est pas grave de demander aux personnes de réfléchir pendant quelques jours avant d'avorter, qu'est-ce que ça va changer après tout, etc. Dans l'expérience vécue des personnes, ce qu'on entend, nous, et on peut parfaitement faire des études, et d'ailleurs des études ont été faites sur le sujet, nous, on n'avait pas besoin des études, mais pour appuyer nos propos, c'est super
c'est
qu'elles aient été faites.
Hein, bien sûr.
Nous, ce qu'on entend, c'est une plus grande difficulté à garder les choses pour elles-mêmes. Donc, si c'est pas très bien accepté qu'elles avortent, par exemple, ces femmes-là, s'il faut multiplier les rendez-vous, multiplier l'attente, ça va devenir de plus en plus compliqué de cacher la situation. Ce qu'on entend, c'est des problèmes de garde d'enfants, des problèmes au travail, d'organisation. Et ce qu'on va entendre au bout de tout ça, quand on fait des études où on suit les personnes sur un certain temps après leur avortement, c'est que les personnes qui ont vécu le plus d'obstacles organisationnelles, etc., sont des personnes qui vont avoir le plus de mal avec l'expérience qu'elles ont vécue de l'avortement à terme. C'est-à-dire que ça va avoir des conséquences sur leur psychisme. Et ça, c'est pas rien, en fait.
Ben non.
Sauf que si on mesure pas les conséquences psychiques de l'avortement à terme en posant toutes les bonnes questions, on peut se retrouver avec des choses complètement à l'envers. Alors, d'une part, complètement ignorer ça. D'autre part, dire « Ah, mais vous voyez, des femmes qui vont mal, donc l'avortement, c'est quelque chose qui est délétère pour les femmes. » Or, en fait, ce qu'on retrouve le plus souvent, c'est que ces personnes qui le vivent mal, c'est des personnes qui ont vécu du jugement,
un empêchement,
etc. Plein de bâtons dans les roues. Et donc, toute cette question-là de remettre l'expérience vécue dans le soin, comme un sujet de questionnement scientifique comme un autre,
oui,
comme une préoccupation comme une autre, ça va vraiment améliorer... notre capacité à amener un soin correct et finalement à aller vers une société. Je parlais tout à l'heure de la définition globale de la santé. C'est la définition de l'OMS qui, en gros, aborde vraiment tous les pans de la vie de la personne. Être en bonne santé, c'est pas uniquement être virus-free, bactéries-free, etc. C'est aussi être bien dans sa tête, savoir qu'on a les ressources si jamais il y a quelque chose qui va pas, être bien dans ses relations. C'est beaucoup plus complexe que simplement un marqueur biologique de maladie cardiaque, par exemple.
Alors, est-ce que justement vous êtes satisfaite et satisfait de ce que la science a produit, ou est-ce qu'il y aurait des pans de recherche qui seraient vraiment intéressants d'aller creuser ?
Il y en a plein. Il y en a plein. Une des demandes qui est portée par le planning, mais au départ par une autre organisation féministe, je ne me souviens plus exactement qui l'a lancée, je parlais de stérilets, donc de dispositifs intra-utérins, dont l'utilisation est montée en flèche avec la remise en cause du tout-pilule typiquement français, où les femmes prenaient beaucoup la pilule comme contraception. Et quand ça a été remis en question, beaucoup de femmes ont dit ben, « il existe d'autres méthodes de contraception » et le DIU, c'est-à-dire le dispositif intra-utérin, en cuivre ou à hormones, est apparu comme étant une super solution avec le fameux indice de Pearl, donc le taux de réussite sur 100 femmes sur un an, très élevé, au même niveau à peu près que celui de la pilule théorique.
Donc ça veut dire que c'est un moyen de contraception très efficace.
Très fiable.
Selon cet indice.
Selon cet indice, et la question c'est toujours ben, sur quoi se base ce fameux indice. Et je me souviens que c'est des journalistes qui ont levé le loup pour la première fois en disant ben, cet indice il se base sur des études très anciennes. Et ce qui se passe, c'est que comme on a une utilisation historique en France du DIU, plutôt pour les femmes qui avaient déjà eu des enfants qui n'en voulaient plus. Mmh. Et ben, ces femmes-là ne sont souvent plus dans leur pic de fertilité. Et donc, ça fausse un peu la mesure de
l'efficacité. L'étude a été faite sur des femmes qui, de toute façon, avaient moins de chance.
Qui avaient globalement une moyenne d'âge plus élevée que celle des femmes utilisatrices aujourd'hui.
Et voilà.
Et donc, il faudrait qu'on refasse cette étude, tout simplement.
Et alors, il y a des gens qui ont programmé ça?
À ma connaissance, pas encore. Le problème, c'est que ces études, voilà, ça coûte très cher, que les entreprises qui fabriquent ces DIU n'ont peut-être pas envie d'investir là-dedans, alors qu'ils ont déjà une autorisation de mise en marché et un indice de Pearl très favorable.
Voilà.
Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait derrière. Mais il y a beaucoup d'études qui seraient intéressantes à faire. Et donc, nous, par exemple, là, on a lancé des études pour recueillir un peu les besoins, les thématiques qui ressortent beaucoup dans nos actions en territoire d'outre-mer, département d'outre-mer. On a fait récemment un travail super intéressant sur l'accueil des questions de sexualité par les professionnels qui travaillent avec des personnes en situation de handicap. Et l'idée, c'était de faire un état des lieux. Et en fait, on a constaté, par exemple, dans cet état des lieux, qu'il pouvait exister un décalage entre les croyances des personnes et leurs pratiques. Mmh. Et ben, ça, c'est super intéressant. Et ce type d'études mériterait d'être plus faites. C'est-à-dire qu'on peut croire qu'on est super favorable à l'égalité de genre, etc. Et puis finalement, dans nos actions, faire tout un tas de choses qui dévient un petit peu. Ce qui est intéressant, en fait, de faire ces études-là, c'est que ben, quand on interviendra la prochaine fois dans une formation avec des personnes qui travaillent auprès de personnes porteuses de handicap, ben, on n'aura pas besoin de les pointer du doigt, elles. On pourrait leur dire, vous savez, on a cette étude et en fait, elle montre que parfois, on pense qu'on a des pratiques super égalitaires ou favorables à une libre sexualité des personnes porteuses de handicap. Et en fait, derrière, bon, ben, c'est plus compliqué que ça. Moi, ça, c'est vraiment un truc à moi, mais si on pouvait travailler la question des populations à qui on prescrit certaines choses et à qui on ne prescrit pas d'autres. Travaillant en région parisienne, le planning où je travaillais, donc le planning de Paris, on recevait beaucoup de femmes qui demandaient qu'on leur enlève l'implant contraceptif. Donc, pour rappel, en fait, c'est une petite tige de plastique qu'on place à l'intérieur du bras, qui libère des hormones pendant 3 ans. C'est plutôt très efficace, et puis ça a l'avantage qu'on ne l'oublie pas. Pendant 3 ans, c'est fait, on n'a pas de risque. C'est très, très efficace. Le problème, c'est que quand on explique mal les effets secondaires possibles, il y a des personnes qui se retrouvent dans l'embarras avec ce truc qui ne leur convient pas finalement. Et le problème aussi, c'est que là où c'est plus facile à poser, c'est pas si facile à enlever. Donc on recevait beaucoup les demandes des personnes qui voulaient qu'on leur enlève parce qu'elles trouvaient personne pour l'enlever.
C'est pas facile à enlever parce qu'il y a personne pour le faire ou parce que techniquement c'est compliqué?
C'est un petit peu plus compliqué que la pose. Après, je pense que c'est un geste qui s'apprend et qui se maîtrise assez rapidement, mais il faut juste le faire. J'ignore en fait en réalité pourquoi on recevait autant de personnes qui étaient en demande de l'enlever. Par contre, ce que j'avais constaté, c'est que beaucoup des personnes qui venaient pouvaient être facilement identifiées à une classe socio-économique basse, en fait, des personnes qui étaient, pour dire les choses clairement, pauvres, et souvent pas d'origine française. Alors, est-ce que c'est que moi qui me suis dit, mon Dieu, mais et qui remarquais particulièrement ces personnes-là?
Et peut-être que c'est un biais d'échantillonnage aussi.
Peut-être
des personnes
que c'est
qui
un
viennent
biais
voir.
D'échantillonnage. Mais il se pose quand même une question pour moi derrière qui est, alors je ne parle pas du tout d'un biais ouvert, hein, je ne parle pas de choses nécessairement que les personnes se disent tous les jours, ah oh, ces femmes-là, machin, machin. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui se passerait qui ferait qu'à certaines femmes, on proposerait avec plus de persuasion la pose de certaines méthodes de contraception qu'à d'autres? Et est-ce que du coup, il n'y aurait pas quelque chose qui se passerait à ce niveau-là? Moi, ça m'intéresserait bien, mais en même temps, en France, comme on a beaucoup de mal avec le concept de race... Mmh.
Bon, on n'identifie pas, en fait, les origines ethniques des personnes.
Voilà. La couleur de peau, c'est quelque chose qu'on ne veut pas voir dans les études. Or, bon, notre position au planning, elle est comme celle de la plupart des chercheuses, chercheurs dans le domaine. C'est que comme ça a une conséquence sur la vie des personnes, ben, c'est pas parce qu'on pense que les personnes sont différentes en elles-mêmes, c'est parce que ça a une conséquence sur la vie des personnes.
Qui est liée à la société, à la perception sociale.
Et donc ça, je pense que ça serait des choses qui seraient intéressantes. Avoir des études un peu sur les biais. Qui utilise plus ces méthodes? Comment? Pourquoi?
Avec toutes les discriminations qui peuvent être cachées et toutes les conséquences qui peuvent aller avec. Mais vous êtes un mouvement qui est quand même extrêmement connu, qui a quand même un certain poids dans la société française, dans les décisions politiques. Est-ce que, par exemple, vous êtes en position de faire des demandes, de commander des études sur certains sujets? Comment ça se passe? Quel est votre rapport aux scientifiques et peut-être même aux politiques de ce point de vue-là sur la recherche?
Alors, notre rapport à la recherche, je dirais, il est très proche. On est très proche, probablement, toutes les gens au féminin, mais il y a quelques hommes aussi, les grands spécialistes des questions contraceptives, de sexualité, etc. Parce qu'on a un comité de pilotage autour de notre recueil de données, mais plus largement aussi, qui intègre beaucoup des grands noms de la recherche. Là où je dois dire que c'est compliqué, c'est qu'en fait, le monde de la recherche ne se porte pas très bien. Et avec toutes les attaques qu'il y a pu y avoir sur l'idée d'une forme de contagion du monde de la recherche par des idées islamo-gauchistes ou je ne sais trop, on est un peu dans le même bateau. Mmh. Et ça, c'est pas très évident, je pense, pour ces chercheuses et chercheurs. Je pense que la prochaine génération, ça sera encore plus compliqué pour elles et eux.
C'est-à-dire que c'est une limitation financière ou c'est aussi une sorte d'autocensure sur certains sujets qu'il ne faut pas aborder, qui ne vont pas être financés?
Je pense que pour le moment, on n'en est pas encore là, avoir des sujets qui ne sont pas financés du tout. Mais étant donné que les moyens baissent, c'est la crainte. Hein, c'est la crainte que les chercheuses et chercheurs qui s'intéressent aux sujets liés à l'intersection des oppressions et donc à l'expérience d'oppression des femmes, mais aussi à l'intérieur du groupe des femmes ou à l'intérieur du groupe des personnes non hétérosexuelles, des personnes particulièrement à risque et vulnérables, il y ait une difficulté à étudier ce sujet-là, qui existait déjà avant, mais que ça aille croissant. Mmh. Alors que c'est un peu orthogonal à la demande de nos publics, des personnes avec qui nous on milite. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus, au contraire, de demandes d'études sur ces questions d'oppression croisée, c'est quoi être une femme lesbienne, c'est quoi être une personne transracisée, etc. Et ça, on sent de plus en plus qu'il y a un durcissement d'une partie de la société, et du côté de notre gouvernement, ça s'entend beaucoup. On a beaucoup de mal à faire passer. Le mot-clé, c'est intersectionnalité, mais en fait, on s'en fout du mot-clé réellement. Enfin, on s'en fout pas, c'est très utile comme concept, mais en gros, la question, c'est comment est-ce qu'on étudie les personnes les plus opprimées de notre société? Comment est-ce qu'on prend en compte leurs expériences? Et ça, c'est très fortement contesté en ce moment. Donc ça, c'est pas évident, mais ça fait partie, pour le coup, de toute notre activité de plaidoyer, bien évidemment.
Et justement, est-ce que la vie associative, puisque c'est quand même ça votre ADN, elle est aussi attaquée, menacée? Enfin, bon, j'imagine que le planning a toujours été attaqué. De toute façon, c'est une évidence, vu les sujets traités, qui sont quand même hautement subversifs, on va dire, pour certaines personnes. Mais est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, la vie associative est aussi attaquée? Est-ce qu'elle est en danger? Est-ce que votre mouvement a toujours intérêt à être structuré en association?
Alors oui, nous, on y tient très fort à l'existence des associations parce que justement, ça a une logique de pluralisme dans la société, de défense d'intérêts. Ça permet aux citoyens de s'organiser sur des sujets qui leur importent et de peser dans la vie de la cité. Ça fait plusieurs années qu'on voit émerger des textes, des exigences qui parfois visent directement les associations, parfois sont plus dans une logique de régulation, plus une logique économique. Mais les textes qui visent les associations sont des textes qui demandent aux associations de s'affirmer laïque, par exemple. Mais quand on lit de près les textes, et moi j'ai eu l'opportunité de le faire parce que comme j'ai milité à la Fédération régionale Île-de-France du planning familial, on a été parmi les premiers à expérimenter ces chartes de la laïcité qu'il fallait qu'on signe pour obtenir des financements. Quand on les lit de près, en fait, c'est assez flou. Alors, on nous demande d'être laïcs, mais on nous demande aussi éventuellement de signaler les personnes qui ne le seraient pas parmi nos publics, ou encore, ou encore de s'assurer d'être politiquement en phase avec les valeurs de la République. Or, en fait, quand on va chercher, ce flou-là, il nous inquiète. Alors, d'une part, il y a une partie où c'est pas flou. C'est la désignation assez ouverte dans ces textes-là et dans les textes qui suivent, y compris une loi qui est en ce moment en train d'être examinée, qui est la loi confortant les principes de la République. On désigne assez explicitement les musulmans, et ça pour nous c'est un problème. La grande majorité des personnes musulmanes vivant en France vivent leur vie. Et cette espèce de stigmatisation constante d'un groupe nous préoccupe beaucoup. Mais après, il y a tout cette espèce de flou derrière qui va dire... que tous les gens qui sont peut-être pas tout à fait en phase, alors en phase avec quoi exactement, c'est ça la question, pourraient être privés de fonds. Voilà, ça va jusqu'à étendre ce contrôle-là sur les entreprises privées qui recevraient des fonds publics. Enfin, il y a quelque chose qui tourne pas rond, qui nous dérange beaucoup, et on pense que la logique d'un pays où il y a beaucoup d'associations, au contraire, c'est une logique de concorde sociale, c'est une logique de pluralité des voix et sur laquelle on est complètement d'accord avec tout un tas d'associations avec lesquelles on signe régulièrement des tribunes, des communiqués. Et quand on nous invite à en parler devant les institutions diverses et variées qui se penchent sur ces différentes initiatives, on le dit et on porte une voix, je pense, qui est assez unitaire de ce côté-là des associations.
Oui, ça me rappelle un appel qui a été lancé par Marlène Schiappa il y a peu de temps pour un appel à projet de financement des associations de la lutte contre les dérives sectaires. J'ai été voir les conditions et il faut effectivement signer un engagement républicain qui indique le respect, par exemple, des symboles de la République. Alors, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Et puis, qui impose la parité auprès des membres du bureau. C'est-à-dire que là, je me suis tout de suite dit, mais comment font les associations féministes? Parce que j'imagine qu'au planning, les membres du bureau sont principalement des femmes. Donc en théorie, suivant cette charte qui n'est pas spécifique à la lutte contre les dérives sectaires, qui est en fait une charte qui doit être respectée par les associations, eh bien, on doit avoir une parité stricte entre les hommes et les femmes au bureau. Alors, est-ce que vous pouvez signer ce document, vous?
Alors nous, évidemment, qu'on ne pourrait pas prétendre à la parité stricte.
Mais alors, du coup, est-ce que vous pouvez quand même recevoir des financements?
Je pense que là, on voit une incompréhension de ce que la lutte contre le sexisme signifie. La lutte contre le sexisme signifie que, comme nous vivons dans une société où les hommes ont de façon disproportionnée le pouvoir, les personnes qui ne sont pas des hommes devraient avoir le plus de sièges possible dans les instances. Or, en fait, quand on pense que la lutte contre le sexisme, c'est d'imposer l'égalité, c'est qu'on n'a pas tout à fait compris. Bon, j'ai pas vu le texte en question dont tu parles par
rapport
à...
Pourtant, il vous concerne. Hein. Je te conseille d'aller voir.
Alors nous, heureusement, on n'est pas encore dans une logique d'appel à projet au niveau national, bien qu'évidemment, dans plein d'associations départementales, et c'est leur droit le plus complet et leur nécessité, souvent, on doit répondre aux appels à projet qui sont des financements limités dans le temps. Un an pour développer un projet, etc. Donc, c'est un point sur lequel on est super vigilante au planning de défendre la liberté associative en France contre tous les soupçons et surtout pour une société plus confiante et non pas une société de la méfiance. Parce que si on nous demande de commencer à contrôler les personnes qu'on accueille, ça n'arrivera pas.
Oui. D'autant plus que tu parlais de projets, mais c'est comme dans les sciences. Les appels à projets sont sur des thèmes bien précis, qui sont un peu des thèmes à la mode. Donc j'imagine qu'il y a dû y avoir une vague sur les violences conjugales, qui devait peut-être éclipser d'autres problématiques à ce moment-là. Mais parce que les financements étaient orientés sur ça, est-ce que tu as des exemples comme ça d'appels à projets où finalement ça ne correspond pas forcément Non pas que les violences conjugales ne vous concernent pas, c'était évidemment un sujet qui vous concerne, mais des appels à projets qui finalement vous restreignent ou ne vous permettent pas de mener les actions qui vous seraient utiles?
Alors, nous, heureusement, à la Confédération, on est préservé de l'appel à projet et on signe des conventions annuelles, voire pluriannuelles avec les ministères qui nous financent. Donc ça, c'est vraiment super et c'est une marque de confiance et ça dit aussi vraiment la place qu'occupe le planning voilà, dans le paysage français. Mmh. On a globalement la chance de travailler avec des personnes qui nous font confiance quand on dit que quelque chose est important et qu'on veut le traiter. On est entendu.
D'accord.
Par contre, on a pu constater ces dernières années la montée d'une petite musique très inquiète à propos, par exemple, de ce que les jeunes font sur Internet. Mm-hmm. Et ça, lors de nos dernières négociations avec la cohésion sociale, qui est une direction, je ne vous raconterai pas, c'est très ennuyant, mais on nous a demandé de travailler sur cette question-là, de la pornographie et plus spécifiquement sur les problèmes lié au visionnage de pornographie. Alors, ça nous a posé une belle colle parce que ce n'était pas nécessairement un sujet sur lequel on avait senti dans le mouvement une envie de travailler. Et puis aussi, on se disait, est-ce que ce n'est pas déjà coller une valence négative sur quelque chose dont on ne sait pas nécessairement ? Et puis en plus, quand on regarde de plus près, ben, nous, on travaille avec... Yael Amselem Mengi, Arthur Vuatou, qui sont les grands spécialistes de l'usage d'Internet par les jeunes. Donc, on a en plus des données objectivées et qui nous disent que ce n'est pas si simple. Alors, bon, heureusement, on est dans une situation où on peut échanger. On a échangé longuement avec les personnes du service en question, dont c'était une demande. Et on leur a expliqué que pour nous, c'était plus intéressant d'élargir la focale, de parler des usages numériques des jeunes en lien avec la sexualité. Mmh. Qu'on ne fera pas d'angélisme, évidemment, parce qu'il y a toute une partie qui n'est pas géniale. Peut-être aussi parce qu'on avait envie de parler de tout ce qui est phishing d'images, donc la diffusion d'images qui n'avaient pas vocation à servir de pornographie, des images intimes, personnelles, de diffusion sur les réseaux sociaux, tout ce qui est cyberharcèlement, cybercontrôle, etc.
Mmh. Vous avez élargi le sujet.
Ah, oui, voilà. Et on s'en est bien sorti. Je pense que tout le monde était content de se dire qu'on travaillerait comme ça. D'autant plus, ce qu'on a mis en avant aussi, c'est que pour nous, c'est important en tant que mouvement de travailler sur les thématiques qui parlent aux personnes qu'on va voir. Donc, si on arrive en leur disant la pornographie, c'est pas bien, on risque d'avoir un certain nombre de personnes qui ne vont plus nous écouter.
Oui, mais en fait, ça montre aussi que vous êtes réellement sur le ring politique. C'est-à-dire que vous êtes confronté à des priorités politiques, à des enjeux politiques, mm-hmm. ce qui est super, mais ce qui peut occasionner aussi des vraies limitations. Vous devez un peu jongler, quoi, avec les dirigeants.
Oui, bien sûr. On a toute une activité de service délégué, finalement. Hein. Tout ce qu'on fait comme écoute, comme orientation, comme information, c'est des choses qui sont de l'ordre du bien public. Donc, dans cette perspective-là, on est vraiment partenaire des pouvoirs publics. Et puis, dans une autre perspective, on porte des convictions, on porte les messages aussi qui découlent de toutes ces personnes qu'on voit, qu'on entend dans l'année. On n'est quand même pas loin de 750 000 personnes, quelque chose comme ça, vues, écoutées par an. Donc, on porte cette parole-là, on porte l'expérience, notamment des jeunes qui forment pas tout à fait la moitié, mais une grande partie de notre public. Et on leur doit aussi hein, de pas baisser les bras quand certains voudraient imposer des choses très normatives, fermer la possibilité du dialogue... et ne pas écouter finalement quels sont les besoins de ces personnes-là. Donc c'est une négociation, c'est très fertile, c'est très intéressant, mais ça nous amène évidemment à avoir éventuellement des désaccords avec les gouvernements. Là, le dernier, c'est sur l'allongement des délais, puisque le planning porte depuis très longtemps la revendication de l'allongement des délais pour l'avortement en France, qui sont relativement courts par rapport à d'autres pays européens. Et... on a eu la chance de pouvoir collaborer avec une équipe de parlementaires qui a proposé un projet de loi. On s'entend bien avec ces personnes, on collabore, on est totalement en faveur de ce projet de loi. Mmh. On a vu que deux parlementaires de la délégation droits des femmes de l'Assemblée nationale ont produit un super beau rapport sur les questions d'accès à l'avortement. Donc, on a beaucoup été nourris par leur travail, on collabore.
Mmh. C'est génial.
Ouais, c'est super bien. Vraiment, c'est un moment unique, en fait, de ce point de vue-là. Alors, la demande d'allongement des délais est relativement modeste, mais c'est aussi comme ça que fonctionne le progrès social. On avance, on passerait de 12 semaines de gestation à 14 semaines, mm-hmm. sachant que on a d'autres
pays. C'est sans doute beaucoup pour beaucoup
pays.
De femmes.
Voilà. C'est déjà beaucoup de personnes qui en bénéficieraient et qui seraient mieux. Mm-hmm. Donc, On a lancé une pétition, on a obtenu un soutien incroyable de la part de toutes sortes de personnalités publiques, de chercheuses, de chercheurs, de politiciens, de politiciennes, etc. Donc on est très contente de cette mobilisation, on a l'impression vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe. Et ben en même temps, la semaine dernière, donc en juillet 2021, le président de la République a annoncé dans un entretien au magazine Elle qu'il s'opposait à l'allongement des délais. Mmh. Alors voilà, on se retrouve là alors qu'on a
globalement... C'est la surprise.
Voilà. Ouais. On pensait pas que c'était son avis, mais voilà, ça l'est. Ben, c'est ça aussi le jeu politique, c'est-à-dire que lui, il a sans doute des enjeux électoraux
et oui,
qui lui font dire ce qu'il dit, peut-être qu'il y croit même. Mais là, pour le coup, il va falloir qu'on continue à militer, essayer de convaincre un maximum de personnes en capacité de décider que c'est la chose à faire. Et on a plein de raisons de croire qu'on va y arriver, notamment parce que la Fondation des femmes a fait faire un sondage sur les questions d'allongement des délais que les Français et les Françaises sont globalement favorables. Mmh. Donc sur ce sujet-là de l'allongement des délais, on milite et on fait un travail de politique de fond pour faire entendre la voix des personnes concernées. Il y a d'autres sujets aussi sur lesquels on milite, des sujets comme par exemple la question du financement des lieux d'accueil sur les questions de vie affective, relationnelle et sexuelle, qui sont des lieux qui fonctionnent super bien. La majorité d'entre eux appartiennent à notre mouvement. Il y a d'autres associations qui en gèrent aussi. Mais c'est des super lieux parce que c'est des lieux qui sont localement implantés, où les personnes peuvent aller poser des questions, en savoir plus, s'informer, être orientées, etc. Et, voilà,
et rencontrer des personnes
et rencontrer des
en
personnes,
chair et en os.
Exactement. Ce qui est super important sur ces questions-là. Mm-hmm. Pourquoi ? Parce que quand vous écrivez un mail ou vous téléphonez ou même que vous prenez un rendez-vous médical ou peut-être ça va être une question parmi plusieurs, vous ne serez pas nécessairement devant une professionnelle ou un professionnel qui vous posera des questions plus larges sur votre vie, comment ça se passe, etc. Parce que l'approche planning étant une approche qui va vraiment aller placer les questions de sexualité dans une question sociétale, dans un ensemble, c'est un super lieu. Donc, par exemple, on milite pour plus de financement pour ces centres. On a milité aux côtés des associations de personnes concernées, par exemple sur la PMA, sur l'ouverture de la PMA.
Donc, la procréation médicalement assistée.
Exactement. Donc, qui, là, tout récemment, et c'est un grand progrès, est ouverte aux femmes seules et aux femmes vivant en couple avec des femmes. Mais voilà, il faudra bien évidemment aller plus loin que ça, puisqu'il y a des personnes qui restent exclues de la PMA, notamment les personnes trans qui ont maintenu une capacité de procréer. Et puis aussi, parce que c'est pas tout à fait égalitaire, je vous épargne le détail, mais les démarches ne sont pas les mêmes pour un couple de femmes que pour un couple hétérosexuel, ce qui voilà, ne paraît pas correct. Donc ça, ça fait partie des derniers sujets qu'on a portés en plaidoyer. Sur d'autres sujets qui sont des sujets sociétaux importants, on a pris des positions nationales. Je pense, par exemple, on a pris le temps de réfléchir récemment sur les questions d'inceste, les questions de seuil d'âge, etc. Mais aussi sur d'autres questions, on n'est pas encore tout à fait prête à prendre des positions. Donc, on a encore des débats en interne. Et c'est une des choses qui est très chouette au planning en réalité. C'est que, étant donné qu'on a cette diversité de militantes, d'âges différents, de profils différents, etc., que la société évolue, que certaines de nos nouvelles militantes, par exemple, peuvent être super à fond sur certains sujets et d'autres ne pas voir l'intérêt, ben,
ou même s'y opposer, peut-être ?
Ou même s'y opposer, parfois, on peut se retrouver à avancer. Un sujet, par exemple, sur lequel moi j'ai vécu dans mon engagement militant avant le planning et au planning des changements de mentalité majeurs, c'est sur la question des violences gynécologiques et obstétriques, par exemple, qui sont la large gamme d'actes, de termes, de protocolisation autour des questions de gynécologie et d'obstétrique.
Et de naissance, donc.
Voilà, et de naissance, de grossesse, d'accouchement, et même de parentalité du nourrisson, qui sont encore très marquées par des violences qui sont souvent des violences sexistes.
Oui, donc ça peut être des violences physiques, comme par exemple systématiser l'épisiotomie, ou des violences morales, où on va infantiliser la mère, par exemple, prendre les décisions à sa place quand elle est à la maternité, ce genre de choses.
Oui, un exemple tout bête et moins sanguinolent que d'autres, l'espèce d'injonction qu'il y a à reprendre une vie sexuelle très tôt après l'accouchement. On entendait, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, puisque moi je l'ai entendu alors que mes enfants sont nés en 2009-2011, qu'il fallait s'y remettre assez rapidement parce que voilà, l'appétit vient en mangeant, qu'il faudrait surtout pas que votre partenaire perde quelque chose en ayant une femme récemment accouchée à ses côtés qui n'a pas envie de faire l'amour. Et c'est hyper violent, en fait, comme injonction. Et c'est sorti il n'y a pas si longtemps que ça.
Oui, effectivement.
Ce n'était pas un sujet public. Alors, j'ai commencé à militer sur ces sujets-là en 2011-2012. Eh bien, je peux vous dire que quand on militait sur ces sujets-là à l'époque, on était vraiment, vraiment à la marge. Et les mouvements féministes étaient très interrogatifs sur nos desseins. Est-ce qu'on n'était pas en train d'essentialiser les femmes, en train de dire qu'elles étaient mères avant tout, que le sujet de la maternité devait redevenir central dans la façon dont on parle des femmes?
Alors, oui, parce que vous remettiez au centre du débat public, finalement,
des questions qui
la maternité.
Liées, voilà.
Donc, est-ce que ce n'était pas réduire la femme à son état de mère, etc.
Et comment aborder ces questions-là de façon féministe, sans exclure, par exemple, de la discussion des personnes qui ne feraient pas un choix super maternant dans leur vie, qui reviendraient au travail au bout de quelques jours, qui laisseraient leur enfant en garde. Et est-ce qu'on pourrait être inclusive des différentes expériences de la parentalité tout en étant féministe à une époque d'un fort courant de maternage proximal? On parlait beaucoup de la nature à l'époque, etc. Et en fait, cette question-là, elle a basculé dans le débat public. C'est-à-dire que en quelques années, et on l'a vu, mais vraiment, en quelques années, la méfiance s'est levée, c'est devenu un sujet sérieux. Alors, il y a énormément d'activistes qui ont travaillé à ça, et j'en nommerai aucune parce qu'il y en a trop. Mais aujourd'hui, on se retrouve avec un paysage associatif, politique et militant très transformé grâce à ça, et notamment au planning, où à notre avant-dernier congrès, on tient des congrès tous les 3 ans au cours desquels on vote un peu nos grandes orientations, on a voté le sujet de la lutte contre les violences gynécologiques et les violences obstétricales comme étant un sujet. Ce qu'on devrait retenir du planning, si on devait retenir qu'une chose, c'est que nous, ce qu'on souhaite, c'est que les personnes puissent vivre une sexualité libre et une sexualité le plus possible agréable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en gros, et pardon pour la vulgarité, je ne sais pas si tu coupes des mots au montage, mais que les gens aient le droit de faire ce qu'ils veulent de leur cul. Et dans la joie, le plaisir, le consentement réciproque. C'est une des choses probablement les plus basiques de notre action et parfois les plus compliquées à communiquer. Je pense que même quand on fait des animations, parfois c'est plus facile de parler des trucs moins drôles, de parler des choses qu'il faudrait savoir, des choses qu'il faudrait faire, etc. Mais au final, l'idée, c'est que c'est une activité qui, globalement, ne devrait pas être contrainte et devrait être pratiquée avec enthousiasme et plaisir. Alors, chaque personne colle derrière le plaisir, l'enthousiasme, la liberté, ce qu'elle veut. Et là, réellement, je pense qu'on n'a rien à dire. C'est-à-dire que qu'on ait envie ou pas, qu'on le fasse parce que on considère que c'est important. Bon, on le fait parce qu'on considère que c'est important, parce qu'on lit des magazines qui disent qu'il faut le faire très souvent pour être en forme. Bon, alors on le fait. On va encourager les personnes à réfléchir un petit peu derrière. Est-ce que ça te fait vraiment plaisir? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres trucs que tu pourrais faire pour être en forme? Mais voilà, on fait tout et tous ce qu'on peut dans un champ qui est marqué par énormément de contraintes, d'injonctions, etc.
De dogmatisme.
De dogmatisme. Et le champ d'intervention du planning, c'est vraiment d'ouvrir la parole sur ce sujet-là et de sortir un peu des ornières dans lesquelles on nous met assez rapidement, soit en n'en parlant pas, soit en n'en parlant trop, soit en n'en parlant pas de la façon dont on aimerait pouvoir en parler. Et donc, ouvrir ce champ d'espace agréable, sécure pour en parler, pour nous, c'est vraiment contribuer à une société plus épanouie. Alors, l'épanouissement, ça peut sembler quelque chose d'un peu comme ça, léger, c'est pas si important que ça, voilà, c'est un peu superficiel ou un peu développement personnel. Mais non, en fait, il y a un vrai potentiel révolutionnaire à vouloir vivre une vie épanouie, où on peut nous-mêmes définir les limites de ce qui est agréable, pas agréable, et puis où on peut s'émanciper de tout un tas d'injonctions qui pèsent sur les vies relationnelles et les vies sexuelles de plein de personnes.
Magnifique. Et si on passait à la minute stupide ?
Ah oui.
La minute stupide. La minute stupide.
Marianne, quelle est la chose la plus stupide que tu aies faite de toute ta vie ?
Alors, ça remonte à très longtemps. Je n'étais même pas encore officiellement une féministe, et encore moins une féministe professionnelle. J'étais une étudiante d'université. Alors, à l'époque, le terme n'existait pas, mais sans doute que je me définissais moi-même un peu comme déconstruite, un peu woke. J'étais antiraciste, j'étais très évidemment féministe dans le quotidien. J'avais pas encore pleinement... J'avais pas été confrontée à beaucoup de choses dans la vie, je dois dire. J'étais petite. Et j'étais dans un cours, bon, moi j'ai étudié la psychologie, un cours où on devait se mettre en petits groupes pour réfléchir à une question. Sur le papier sur lequel étaient inscrits les noms des personnes qui étaient dans mon groupe, il y avait un nom imprononçable et un nom francophone québécois. Mm-hmm. Et on était quatre. Un homme dont j'arrivais à identifier, et puis il y avait deux autres filles dans le groupe. Et je me suis tournée très naturellement vers la jeune fille qui n'avait pas la peau blanche, et j'ai dit « c'est toi ?» Et j'ai essayé de prononcer le nom imprononçable. Et bah, c'est vraiment très stupide, comme présupposé, puisqu'en fait, elle était la jeune fille au nom francophone. Voilà, et que j'avais juste complètement pris pour acquis que la jeune femme blonde qui était à côté d'elle devait être cette fille. Et voilà, je me suis trompée. Et évidemment, je pense qu'elle m'en a pas tant tenu rigueur que ça. On est restés amis, on a été amis pendant de longues années. Je continue à la fréquenter quand j'ai l'occasion.
Elle devait avoir l'habitude.
Elle avait l'habitude. Mais je me suis trouvée tellement stupide. Voilà.
Merci Marianne.
De rien.
Et c'est la fin de cette série humble et superbe. Elle a été mixée par le très engagé et tenace Mathieu Fraticelli. Un très grand merci à lui pour son indispensable travail à mes côtés. Quant à celles et ceux qui ont remarqué les magnifiques mèmes de citations qui circulent sur les réseaux sociaux, ils sont l'œuvre de Crapaud, du collectif L'Extracteur, et de Josh, président de l'ASCO, l'Association des Sceptiques de l'Ouest. Que ferais-je sans eux ? Que vous réserve la prochaine série Shocking ? L'analyse au scalpel des procédés peu glorieux d'une grande figure du coaching. Attention, ça va être sanglant. Elle sera diffusée après ma participation à deux conférences qui se tiennent en octobre. Près d'Annecy le 9 et au Paris Podcast Festival le 15. De belles rencontres en perspective qui devraient vous aider à patienter jusqu'à votre prochaine dose de pensée critique appliquée à soi. Pour que Méta de Choc, podcast gratuit, indépendant et sans publicité, poursuive son action d'empêcheur de tourner en rond, soutenez-le en suivant le lien en description. Merci à celles et ceux qui ont fait un don ponctuel ou mensuel cette semaine. On se retrouve donc très bientôt et comme toujours, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.